Donc là, ce qu'on est, on peut dire que la théologie, c'est un peu la science de Dieu. Donc là, on est exactement dans le sujet, puisque la révélation, c'est exactement ce que nous dit la révélation pour nous donner des lumières sur qui est Dieu. Donc c'est pas la révélation, c'est pas un dogme, c'est pas juste un ensemble de textes. On va le voir pendant toute l'année. C'est vraiment le préalable, puisqu'on parle de religion révélée pour parler notamment du christianisme. Mais voilà, il y a quelque chose de tout part de la révélation. Et à partir de là, en fait, on peut voir toutes les vérités et découvrir toutes les autres choses. Donc c'est vraiment un préalable et finalement un fondement de notre foi. Alors le mot révélation, en fait, il est relativement récent, puisque jusqu'au Concile de Trente, en fait, on n'utilisait pas le mot révélation. On utilisait les mots type évangile, écriture, doctrine chrétienne, etc. Saint Thomas, il utilisait doctrine sacrée ou la vérité du salut. Voilà. Et finalement, la révélation était souvent... et donc le mot révélation était plus au-delà, en fait, de juste la doctrine sacrée. Et donc, ce que nous dit la révélation, du coup, la révélation, c'est pas un ensemble de vérités doctrinales, donc c'est pas l'ensemble des dogmes, c'est pas tout ce qu'il faut savoir sur Dieu, mais c'est, et ça parle pas seulement à la raison, mais c'est défini comme le contact personnel de Dieu avec l'homme, comme conversation vivante. Et je pense que ce sera important tout au long de l'année de garder cette relation vivante. C'est une. La révélation, c'est pas juste. Le mot fait penser à quelque chose de très. C'est posé là, et puis c'est un décor à comprendre. Non, pas du tout. Ça se passe dans une relation et dans un dialogue, comme toujours avec Dieu. Et donc, c'est quelque chose qui est vivant et qui culmine dans le mystère du Christ, donc qui consomme ou qui accomplit la révélation. Et qui nous explique d'ailleurs toute la révélation. Donc à partir de sa personne, on peut comprendre même ce qui est dit dans l'Ancien Testament ou ce qui nous est révélé aujourd'hui. Voilà. La révélation, elle est aussi un caractère trinitaire, puisque le Christ révèle Dieu, donc Dieu révèle le Père et aussi l'Esprit. Mais il est pas seulement telle ou telle action, donc c'est pas juste un véhicule, mais c'est sa personne elle-même qui est révélation. Donc sa vie tout entière est manifestation de Dieu, sacrement du salut. En fait, il y a à la fois, il prononce les paroles de Dieu et en même temps, il achève l'œuvre du salut, il est la révélation. Donc c'est moins une communication de vérité qu'une communication de Dieu lui-même. Donc c'est vraiment comment recevoir Dieu et comment pouvoir entrer en communication avec lui. Alors en fait, sur cette année, on va étudier la révélation à travers 8 sessions. Alors il y a une première partie, donc aujourd'hui on va être assez un peu brosser le tableau, on va dire, en partant de la création, mais aussi sur ce désir de Dieu de se communiquer. Donc on sera assez introductif, on va dire, voire englobant, quoi, aborder des thèmes qui seront un peu creusés les fois d'après. Ensuite, on a comment concrètement Dieu se révèle. Alors on va partir de l'Ancien Testament un peu plus avec Moïse, les prophètes, etc. Donc comment Dieu parle à travers des personnes. Donc c'est toujours vivant, c'est pas juste un texte déposé, c'est à travers des personnes. On va culminer en décembre sur la révélation en Jésus-Christ. Et ensuite, on va décliner la suite dans l'Église. Donc là, on est un peu dans les trois grands temps, l'Ancien Testament, le temps de Jésus, et puis depuis la vie dans l'Église. Donc on verra qu'est-ce que la révélation nous dit dans ces trois temps-là. Et puis ensuite, on va regarder plutôt comment on accède à la révélation. Donc là, on sera plutôt en se plaçant de notre point de vue et de dire, qu'est-ce que l'Écriture sainte nous dit, qu'est-ce qu'on peut en dire, en quoi elle nous révèle Dieu. La tradition et le magistère, comment là aussi on apprend des choses de Dieu, qu'est-ce que ça nous découvre par rapport à l'Écriture sainte, etc. Et puis aussi des choses un petit peu plus peut-être personnelles ou moins directement dans l'Église, que sont les signes des temps, charisme des prophéties, les visions, les apparitions personnelles ou des choses comme ça. Voilà, qu'est-ce que ça nous dit de comment on trouve là aussi une révélation de Dieu. Et puis en mai, on terminera sur quelque chose, pourquoi c'est une révélation qui a autorité et en quoi on peut se baser dessus. Donc un peu revenir sur, ça sera peut-être plus général, pour revenir sur les fondements, en quoi cette révélation, on peut fonder notre foi sur cette révélation. Alors ensuite, je vous ai mis un texte. Pendant toute l'année, sur la révélation, il faudrait vraiment lire Dei Verbum, de Vatican II, donc l'encyclique, c'est 10 pages, je vous l'enverrai, enfin vous la trouvez sur le site de Vatican, mais je vous l'enverrai, comme ça vous l'aurez. Voilà, et là je vous ai mis un passage qui à mon avis illustre pas mal que c'est ce qu'on va plutôt voir aujourd'hui d'ailleurs, qui est ce souci de Dieu de se révéler, de se faire connaître. Il a plu à Dieu dans sa bonté et sa sagesse de se révéler en personne et de faire connaître le mystère de sa volonté grâce auquel les hommes, par le Christ, le Verbe fait chair, accèdent dans l'Esprit Saint auprès du Père et sont rendus participants de la nature divine. Donc là, on voit bien qu'on a la Trinité par le Christ dans l'Esprit vers le Père. Par cette révélation, le Dieu invisible s'adresse aux hommes en son surabondant amour comme à des amis. Il y a cette idée de dialogue où il nous met à l'égalité pour qu'on puisse dialoguer avec lui. Il s'entretient avec eux pour les inviter et les admettre à partager sa propre vie. Pareil, économie de la révélation comprend des actions et des paroles intimement liées entre elles, de sorte que les œuvres accomplies par Dieu dans l'histoire du salut attestent et corroborent et la doctrine et le sens indiqués par les paroles, tandis que les paroles proclament les œuvres et éclairent le mystère qu'elles contiennent. Donc on a tout cet ensemble de choses qui sont à la fois des paroles, des œuvres, et puis finalement, chacun éclairant l'autre ou préparant l'autre pour nous éclairer sur le mystère. La profonde vérité que cette révélation manifeste sur Dieu et sur le salut de l'homme resplendit pour nous dans le Christ, qui est à la fois le médiateur et la plénitude de toute la révélation. Ça va être notre motif de l'année. Donc je pense que le cours 3 sera très important. Alors j'ai voulu repartir aujourd'hui de la partie de la création. Donc partant de ce qui est la première chose qu'on voit, c'est cette création. Et puis d'en déduire qu'est-ce que ça nous dit cette intervention, parce qu'il y a la création initiale mais il y a aussi tout ce temps de l'histoire et donc comment Dieu intervient et comment Dieu nous se fait connaître dans ces choses-là et aussi par sa parole. Donc le Dieu essaie de se fait connaître à ses créatures, donc il vient vers eux et c'est dès le début même dans la Bible, puisqu'il y a, Dieu qui, dans le jardin d'Éden, parle avec Adam et essaye de... Voilà, Adam, où es-tu? Et voilà, il y a une recherche de se faire connaître et de se montrer à Dieu. Mais il a... et je pense que c'est important aussi, dans cette création, c'est aussi que l'homme est fait à l'image de Dieu. Donc il y a aussi la capacité de comprendre comment Dieu va se révéler. Donc c'est un peu le fil conducteur après sur le dialogue dans la parole. Alors si on commence par la création, déjà on voit la beauté de la création. Donc là, et Jérôme et Arnaud, comme on a une retraite samedi, et il y avait eu un peu ces thèmes-là abordés, donc voilà, mais c'est pas grave, on reprend. De toute façon, la répétition et pédagogie, et mère de pédagogie, là, quelque chose comme ça. Alors, lorsqu'on considère l'univers, on peut pas passer à côté du fait qu'il y a un Dieu créateur. C'est quand même une majorité de gens, il y a quelque chose qui dépasse quand on regarde la création. Que ce soit sur la beauté et l'immensité de l'univers, avec les galaxies et tout ça, mais aussi en regardant les toutes petites parties, y compris les cellules hyper complexes et qui pourtant ont toute une vie en elles-mêmes. Donc l'être humain, à partir de cette nature sublime, peut s'interroger sur son origine et son créateur. Donc c'est ce que saint Paul nous dit dans Romains 1, 19, 20, qui est un texte un peu important sur aussi toute cette révélation par la création. En effet, ce que l'on peut connaître de Dieu est clair pour eux, car Dieu le leur a montré clairement. Depuis la création du monde, on peut voir avec l'intelligence, à travers les œuvres de Dieu, ce qui de lui est invisible, sa puissance éternelle et sa divinité. Et Pascal aussi fera tout un commentaire. Je vous ai mis un passage de Pascal à la fin sur le fait que la découverte du Créateur par la nature, c'est le premier palier le plus universel dans la rencontre de Dieu. Et donc, il y a quelque chose dans la création, parce qu'elle est belle, parce qu'elle est immense, parce qu'elle nous dépasse aussi. Mais ça peut être aussi sur la beauté de l'être humain aussi, de ce qu'on est, ou la complexité, ou la... On peut voir comment ça nous dit quelque chose du Créateur et de Dieu. Et ça nous dit non seulement que Dieu peut être Créateur, donc ça nous dit juste qu'il y a juste un Créateur, mais aussi que ce Créateur-là, ou c'est ce Dieu, est digne de gloire. Voilà, il y a quelque chose en rapport avec, donc j'en ai mis l'unité, la vérité, la bonté, la beauté de Dieu, mais il y a quelque chose d'une symphonie qui fait que ça nous dit plus que juste il y a un Dieu créateur qui, in fine, ne motiverait pas plus que ça pour en faire quelque chose. C'est aussi parce qu'il y a cette bonté, cette beauté, une attirance qui fait que ça a un intérêt de se pencher sur le créateur. Et ça nous dit aussi quelque chose de l'agir et de la volonté de Dieu. Donc ça, c'est les psaumes. Alors les psaumes sont... Il y en a plein qui sont des immenses contemplations de la nature, qui sont louanges à Dieu dans la nature. On a beaucoup, beaucoup de psaumes. Donc je vous en ai mis deux. C'est le psaume 18. « Les cieux proclament la gloire de Dieu, le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. » Qui est cette idée d'agir de Dieu. Le jour au jour en livre le récit et la nuit à la nuit en donne connaissance. Pas de parole dans ce récit, mais pas de voix qui s'entendent, mais sur toute la terre en paraît le message et la nouvelle aux limites du monde. Une sorte d'explosion de révélation. Et puis l'autre, c'est il parla et ce qu'il dit exista, il commanda et ce qu'il dit survint. Donc il y a cette puissance de Dieu qui est à l'œuvre. Alors, il ne faut pas s'arrêter à Dieu, parce que quand on dit Dieu créateur ou Dieu est dans la nature est très belle et nous révèle Dieu, on pourrait dire, bon, du coup, Dieu, et c'est toutes les religions païennes ou l'immanence de Dieu qui serait Dieu est dans la nature et dans les choses, etc. Donc, non, Dieu est infiniment plus grand que toutes ses œuvres. Psaume 8, au Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre, jusqu'aux cieux, ta splendeur est chantée. Voilà, et puis il y a toute la partie d'Isaïe 40. Levez les yeux, regardez, qui a créé tout cela ? Celui qui déploie toute l'armée des étoiles et les appelle chacune par son nom. Si grande est sa force et telle est sa puissance que pas une seule ne manque. Voilà, il y a cette idée de, c'est au-delà de la création qu'on va trouver Dieu. Donc on va le trouver pas dans la création, au sens où il serait inclus dans sa création. Et donc quelque part, quand on dit Dieu est partout, c'est pas toujours... ça peut être entendu comme ça. Avec Dieu, finalement, c'est le produit de sa... c'est la création qui est Dieu. Non, en fait, il est vraiment transcendant par rapport à la création, par rapport au monde. Et c'est ça, d'ailleurs, qui assure la beauté de la création. Voilà. C'est un peu inclus dedans. Ça nous évite d'être juste horizontal. Et donc, il y a sous cette dimension qui va au-delà. Et j'aurais pu mentionner aussi la partie angélique. C'est la création spirituelle qui nous déploie aussi tout un autre ordre de création et qui montre bien que Dieu est au-delà du créé et de la nature. Alors, le Sagesse 13 condamne beaucoup ceux qui croient en la nature et l'idolâtre. De nature, ils sont inconsistants, tous ces gens qui restent dans l'ignorance de Dieu. À partir de ce qu'ils voient de bon, ils n'ont pas été capables de connaître celui qui est. En examinant ses œuvres, ils n'ont pas reconnu l'artisan, mais c'est le feu, le vent, la brise légère, la ronde des étoiles, la violence des flots et les luminaires du ciel gouvernant le cours du monde qu'ils ont regardés comme des dieux. S'ils les ont pris pour des dieux sous le charme de leur beauté, ils doivent savoir combien le maître de ces choses leur est supérieur, car l'auteur même de la beauté est leur créateur. Et si c'est leur puissance et leur efficacité qui les ont frappés, ils doivent comprendre à partir de ces choses combien est plus puissant celui qui les a faites, car à travers la grandeur et la beauté des créatures, on peut contempler par analogie leur auteur. Donc c'est très étonnant parce que Sagesse, c'est quand même un texte qui nous paraît assez ancien. Et en fait, on est déjà sur « il est ». C'est très précis sur cette idée de Dieu créateur qui est au-delà cette idée d'analogie. Alors saint Thomas aussi développe une métaphysique de la création. Il décrit Dieu comme l'être subsistant, donc subsistant qui est la cause première, donc qui est transcendant au monde. Voilà. Et en même temps... qui participe de son être par les créatures, donc il est intimement présent en elles, mais dans ce sens, il n'est pas partout au sens diffus et immanent, mais au sens que chaque créature en fait dépend de lui, parce qu'il est la source de l'être. Voilà. Et donc ce Dieu-là, ça nous montre un Dieu créateur souverain et libre, et qui est cause première de tout ce qui existe, et qui est présent. Donc déjà, on va avoir une thématique aussi qui ne nous abandonne pas, et qui veut interagir avec sa création. On verra plus dans la partie 2 sur l'histoire. Voilà. Après, un autre point très important, c'est qu'il est la source de la vie. Acte, car c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Et il y a quelque chose, c'est une dynamique. Ce n'est pas juste un état créé et puis voilà, et puis c'est fait, et puis on passe à autre chose. Non, il y a toute cette dynamique de vie, et c'est très important aussi ce mouvement qui est celui de la relation. Alors, quand on dans le symbole de Nicée Contentinum, quand on confesse notre foi, en fait, on commence par en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Donc, on est très tout de suite sur la question du Dieu Créateur. Donc, c'est comme ça qu'il se révèle, Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Puis un peu plus loin, en un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui tout a été fait. Donc là, de nouveau, le thème de la création, mais appliqué à Jésus. Et en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Donc là aussi, forme de création, puisqu'il y a le Seigneur qui donne la vie. Donc en fait, on a vraiment, dans la foi chrétienne, dans ce symbole de la foi, qu'il y a la création à partir du néant, mais qui est faite par, avec l'intelligence, la sagesse de Dieu, avec, voilà, il y a toute la Trinité en Dieu qui intervient dans cette création, et avec cette idée de sagesse de Dieu, donc le Logos. Donc il y a une, non pas une nécessité, mais il y a une intention dans cette création, voilà, une intention, c'est pas juste, voilà, par hasard créé, il y a un souhait, voilà, un projet. Et donc, c'est vous dites, toutes ces dimensions avec l'amour, l'Esprit Saint qui procède du Père et du Fils et qui exprime cette idée d'intention amoureuse de Dieu pour sa création. Donc, les trois personnes de la Trinité sont à la base de leur action créatrice et ça démontre la bonté de Dieu et ça rejoint toute Genèse. Et Dieu vit que cela était bon, très bon, et on l'a plusieurs fois. Voilà, il y a cette idée de création qui est voulue comme un don, comme vraiment un cadeau donné et comme un don même de Dieu, voilà, qui est sur le incarné, enfin, ou qui est pas incarné, c'est pas le bon terme, mais qui est matériel, enfin, qu'on réfère à l'action de l'esprit. Alors déjà, dans cette création aussi, dans cette façon de regarder la création, on a l'unicité du principe créateur, même si on voit les trois personnes qui interviennent, mais c'est quand même le Père Tout-Puissant qui est la source de la création. Alors ce qu'on peut voir aussi, c'est que la création n'est pas le produit d'une nécessité quelconque. Donc il y a vraiment cette idée de volonté libre de Dieu qui veut faire participer les créatures à son être, à sa sagesse et à sa bonté. Car c'est toi qui créas toutes choses, tu as voulu qu'elles soient et elles furent créées. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Et ça, c'est aussi un thème, je parlais des psaumes qui montraient qui louaient pour la création, mais aussi pour la tendresse de Dieu dans toute sa création. Et on le voit aussi dans beaucoup de paraboles, celles qui étaient rappelées là, dans la méditation devant l'Eucharistie sur voilà, l'hélice des champs, il vous habille et pas un seul de vos cheveux ne sera, on touchera un seul de vos cheveux, vous valez plus que des passereaux. Donc il y a vraiment une tendresse de Dieu, il y a quelque chose de cette bonté et de ce don. Alors ce que nous dit Saint Bonaventure, c'est Dieu a créé toute chose non pour accroître la gloire, mais pour manifester et communiquer cette gloire. Dieu n'a pas d'autre raison pour créer que son amour et sa bonté, c'est ce que nous dit Saint Thomas. C'est la clé de l'amour qui a ouvert sa main pour produire les créatures. Et donc l'affirmation chrétienne, c'est qu'il y a une vraie liberté divine créatrice et qui fait qu'il n'y a pas, qui s'oppose à une vision de la création où on serait, ou d'un Dieu où on aurait à subir un fatalisme ou un déterminisme. Non, en fait, on n'est pas ni en dedans de Dieu ni au dehors de Dieu. Il n'y a rien qui l'oblige à créer. Donc c'est vraiment juste un choix d'amour et une surabondance de sa grâce. Et donc Dieu désire que toutes ses créatures le connaissent. Alors ce qu'on peut voir dans cette première partie sur la création, c'est qu'en fait ça nous révèle un Dieu qui est à la fois tout puissant et libre, donc qui veut vraiment se donner et qui manifeste sa toute puissance faisant la création et donc en nous montrant et en nous faisant participer à sa création. Alors la deuxième partie, c'est plus Dieu se révèle dans l'histoire, parce qu'en fait la création elle se réduit pas au début. Donc il n'y a pas la création, puis après, pouf, vous faites ce que vous voulez. Dieu, il n'abandonne pas sa créature à elle-même. Il lui donne non seulement d'être et d'exister, mais il la maintient à chaque instant dans l'être. Il lui donne d'agir et la porte à son terme. Donc il y a cette tension vers la fin. Et il y a quelque part cette création tout le temps de Dieu qui n'est pas vue comme dans les autres mythes, voilà, ou dans d'autres religions ou d'autres mythes qu'on aurait, où il y a l'événement fondateur qui explique le temps primordial, pourquoi il y a quelque chose alors qu'avant il n'y avait rien, voilà, mais c'est juste un événement. Là non, c'est en fait c'est juste le début d'une d'une histoire du salut. Et donc, on est vraiment sur une création en continu et en dynamique. Et cette histoire-là, elle manifeste le dessein sauveur de Dieu et elle l'accomplit efficacement et totalement dans la personne du Christ. Puisque l'histoire n'est pas seulement signifiante d'une volonté, mais accomplit cette volonté. Donc, il y a la parole de Dieu, elle est créatrice au début et elle est créatrice tout le temps et éminemment créatrice parce qu'elle nous offre le salut dans la personne du Christ. Donc, quand on parle de révélation, du coup, c'est pas seulement parler des livres produits par le peuple de Dieu, c'est parler de l'histoire que Dieu écrit dans son peuple et dont la trace est effectivement dans l'histoire, dans l'Ancien Testament et dans l'histoire d'Israël. Voilà. Et donc, toute l'histoire d'Israël et ce déroulement, cette annonce, cette expression, cette promesse de Dieu qui s'accomplit dans le temps. Et on peut lire tous les grands événements de l'histoire du salut comme un lieu de la révélation de Dieu, puisqu'à tout moment, il intervient. Et si on a bien un sens de l'événement lui-même, en fait, il vient... pas seulement de moi ce que je reçois, mais de la source qui donne l'événement. Donc l'événement par lui-même est une intervention de Dieu. Et on voit dans toute la révélation qu'il y a, vraiment cette... au-delà de l'histoire, il y a aussi la transmission de cette histoire qui est un fil conducteur important, parce qu'il y a cette idée et là ça va rejoindre la troisième partie sur la parole, il y a cette idée de, voilà, ça se transmet de génération en génération, donc il y a quelque chose qui se passe dans le temps de l'histoire. Alors l'Écriture sainte compare l'agir de Dieu dans l'histoire avec l'action créatrice, donc je vous ai mis quelques exemples dans Isaïe, aussi dans la sagesse, comment aurait-il subsisté si tu n'avais pas voulu, comment aurait-il conservé l'existence si tu ne l'y avais pas appelé. Là, on est vraiment sur la dimension que si Dieu cesse de penser à nous, en fait, nous tombons en poussière et nous n'existons plus. Donc il y a cette idée de maintien ou de cette création continue qui est celle de la bonté de Dieu. Saint Paul va plus loin puisqu'il a attribué cette action conservatrice au Christ. Il est avant tous les êtres et tout subsiste en lui. Donc subsiste, c'est le mot fort, c'est vraiment qui existe, enfin qui a une vie en lui. Louis Bouillet, dans la Bible et l'Évangile, nous dit « Le Dieu qui parle est également et inséparablement le Dieu qui agit. Nous avons vu en effet que sa parole est créatrice par essence. La promesse de l'alliance contenue fondamentale de la parole de Dieu à Israël se réalisera donc par une intervention dans l'histoire du monde. Cette intervention sera pour Dieu un tel engagement qu'il ne se contentera pas d'avoir révélé son nom aux hommes qu'il a appelés. Il se fera homme lui-même. Le sommet de l'intervention divine dans l'histoire, ce sera quand la parole de Dieu, sa parole non seulement créatrice, mais vivante, subsistante, personnelle, se fera chair. » Donc il y a cette idée de la promesse de l'alliance et de cette... Donc la parole est créatrice au début, elle est créatrice tout au long, et elle est éminemment créatrice quand le Christ se fait chair. Alors là, contrairement à ce que Voltaire pense ou les philosophes des Lumières, donc le Dieu chrétien n'est pas un horloger ou un architecte. Il est créateur, mais aussi conservateur et gouverneur. Donc c'est aussi pour ça qu'on peut parler de... Voilà, quand on parle de roi, il y a cette idée de gouvernement, de s'assurer que la conservation... Alors le mot est un peu curieux, mais il y a ça quand même entre le fait que... Voilà, il y a la providence divine qui fait que on peut durer dans le temps et on peut avoir de l'espace pour être. Voilà. Et après, c'est le thème de l'orientation, c'est-à-dire que cette conservation, cette gouvernance, elle est aussi orientée vers la fin et donc vers le salut, puisqu'il nous appelle à finalement la vie divine et à l'ultime perfection. Donc il y a quelque chose qui est orienté aussi. Donc, c'est pas juste des choses cycliques qui reviennent tout le temps et voilà, et finalement, on sait pas très bien où ça va. Il y a du coup, c'est vraiment porteur de sens parce que c'est porteur du salut. Et donc, c'est une vraie action créatrice qui nous tourne vers la vie et la vie éternelle. Voilà, Jésus, du coup, se révèle comme la providence incarnée de Dieu qui, en tant que bon pasteur, s'occupe des besoins matériels et spirituels des hommes et nous enseigne à nous abandonner à ses soins. Donc, on va faire de nouveau le lys des champs. De tout à l'heure. Donc là, ce qu'on voit plutôt dans cette partie-là, c'est vraiment que Dieu est créateur, mais il est aussi non seulement tout puissant, mais tout aimant. Et donc, il est protecteur et père pour accompagner sa créature et pour pour la porter vers la fin. Là, je vous ai remis un texte de Louis Bouillet sur le fait que l'écriture est inanime sur la réponse, le fait non pas unique certes, mais central, mais fondamental, où Dieu s'est révélé lui-même en intervenant décidément dans l'histoire de son peuple, c'est l'Exode. Donc, bon, lui, il passe sur la première partie. Délivrance merveilleuse d'Israël, arraché à la servitude de l'Égypte et conduit par la main forte et le bras étendu du Seigneur jusqu'au pays de Canaan, au pays de la promesse qu'Abraham avait reçue. Et donc, il y a cette intervention qui est manifeste et qui est pour le bien de l'homme. Cependant, on voit que ce n'est pas un Dieu tout-puissant qui intervient au sens où on serait des marionnettes et qui donc nous oblige quelque part. Là, on retomberait sur du déterminisme, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, Dieu, il a créé sa création en marche et puis il se sert de la porte de ses créatures. Donc, en fait, il concède aux hommes une participation à sa providence dans le respect de leur liberté, même s'ils agissent mal. C'est pour ça qu'il y a tout le mystère du mal. Alors, bon, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que sinon, ce serait un cycle rien que pour lui. Et donc, il y a cette liberté de sa création, de sa créature, notamment l'homme. Et Dieu est patient. Donc, il nous laisse le temps de comprendre, de nous convertir. Sa fidélité demeure d'un jour d'âge. Et donc, sa bonté et sa toute-puissance, elle s'arrête à notre liberté parce qu'il nous a créé à son image et on l'a vu dans la première partie, il est libre. Et donc, il nous laisse libres aussi jusqu'à nous laisser faire du mal et des bêtises et s'éloigner de lui. Mais lui, il demeure fidèle. Et donc, il est toujours là et il rattrape quelque part où il replace son alliance, où il réessaye, où il nous remet dans des rails. Et donc, il intervient, mais sans nous contraindre, mais en nous laissant avancer et en faisant tout pour qu'on avance dans le bon sens. Alors, Ourson Balthazar nous dit dans La Gloire et la Croix, « Dieu se cache ordinairement et se découvre rarement. Il est demeuré caché sous le voile de la nature qui nous le couvre jusqu'à l'incarnation. Et quand il est paru, il s'est encore plus caché en se couvrant de l'humanité. Et enfin, il s'est caché dans le plus étrange et le plus obscur secret de tous, l'Eucharistie, le dernier secret où il peut être. Dieu, qui est la valeur suprême, veut qu'on le cherche. Cela seul est digne de lui. Il faut donc qu'il y ait assez de lumière pour que l'obscurité de la vraie religion puisse être vue. » Et assez d'ombre pour que sa révélation soit toujours contestée et que la rencontre entre Dieu et l'homme s'accomplisse dans la liberté du cœur et sans contrainte logique exercée sur l'intelligence. Donc en fait, Dieu, à la fois il se révèle et il se manifeste et en même temps il se retient pour ne pas se manifester dans toute sa gloire. Et on sait que dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, d'ailleurs, les passages où Dieu est dans toute sa gloire sont rarissimes. Parce que sinon, ça nous écraserait de cette gloire et on aurait, on serait avec une contrainte qui ferait plier notre intelligence. Alors, c'est pas ce que Dieu veut. Il veut que nous le cherchions à la fois de cœur, mais aussi par notre intelligence. Et donc, on ait cette démarche. Et donc, il y a assez de mystères, de cachés ou de voilés pour rester dans cette dynamique où ça reste une liberté du cœur de le chercher. C'est assez beau cette idée de l'Eucharistie, où c'est manifestement le plus caché qui soit. Enfin, comment imaginer que Dieu est dans un morceau de pain, tout simple et tout rond. Voilà, c'est vraiment le mystère le plus, la meilleure manière dont il est plein de délicatesse pour nous laisser le trouver. Voilà. Le mystère caché de Dieu est un respect divin plein d'amour pour la liberté de sa créature et celle-ci doit se mettre à l'école de l'amour éternel pour comprendre que son caractère caché n'est pas une dérobade, mais au contraire un accompagnement de sa créature. Et Dieu donc se révèle dans cette histoire, un Dieu d'amour et de miséricorde et puis un Dieu fidèle. Voilà. Et un Dieu finalement plein de temps, alors mis à amour et miséricorde, mais presque de la tendresse pour vraiment nous prendre là où on est, avec ce qu'on est capable de faire, et en tout cas nous demandant quasiment pas plus que ce qu'on peut offrir et ce qu'on peut penser de lui. Quoi. Voilà. On est loin d'un Dieu tout-puissant qui nous écrase et qui nous oblige à nous aimer. C'est quand même très très loin du Dieu de l'islam. Et en même temps, je pense que c'est important de montrer que c'est de garder la toute-puissance aussi. C'est pas non plus un Dieu qui se fait misérable, quoi. C'est pas de cet ordre-là. C'est vraiment la toute-puissance de l'amour qui va jusqu'à s'effacer pour laisser la réponse à l'amour. La deuxième partie, c'est Dieu se révèle par la parole, parce que on voit qu'en fait, même dans ce que je vous ai dit avant, donc par la création, alors oui, pas de message, pas de parole et pas de verbe, mais le message en paraît partout, donc il y a quand même une parole finalement, quand même. Et puis en Jésus, on sait bien qu'il a parlé, même si dans le Nouveau Testament, on ramène un certain nombre de paroles de Jésus, mais savoir que c'est les trois dernières années, quoi, puisque 30 ans, on ne sait pas ce qu'il a dit, Jésus. On a deux paroles, donc c'est pas beaucoup. Celle qu'il a dit à sa mère, quand on a le temple à 12 ans, quoi, voilà, donc il ne devait pas y avoir grand-chose de plus que ça. Donc voilà, donc Dieu ne parle pas, c'est pas un moulin parole, hein, contrairement à ce que je suis en train de faire. Mais c'est un Dieu qui parle et se parle. Alors déjà, il y a la première phrase de Genèse, « Faisons l'homme à notre image », comme s'il se parlait à lui-même. Bon, alors personne n'a écouté, il l'a enregistré, hein, donc voilà, mais ça dit bien quelque chose de cette... Voilà, que la parole est quand même la mise en mots, parce que ça fait référence à l'intelligence, ça fait référence, nous en tout cas, c'est notre manière de raisonner et de penser, et en ça aussi on est à l'image de Dieu, c'est à travers les mots. Donc la parole au sens juste des mots, elle a du sens. Après, il y a les très très beaux passages des dialogues entre Dieu et Abraham, qui nous disent quand même, tout ce commerce au sens... dialogue où Dieu dit à Abraham, est-ce que je vais cacher à Abraham ce que je veux faire? Et donc il explique, et c'est tout le dialogue autour de Sodome. Il lui révèle son dessein sur l'avenir et puis il lui dit, puisque tu as écouté ma voix, il y a cette idée de parler et d'écouter, toutes les nations de la terre s'adresseront l'une à l'autre la bénédiction par le nom de ta descendance. Donc il y a cette vraie volonté de faire alliance. Et la bénédiction, c'est aussi par la parole. Donc les bénédictions, c'est des mots aussi qui se disent. Donc voilà. Il y a aussi toute la partie de Dieu qui parle avec Moïse. Donc le Seigneur parlait avec Moïse face à face, comme on parle d'homme à homme. Il lui révèle son nom. Donc je suis celui qui suis, ce qu'on verra plus précisément la fois prochaine. Le Seigneur dit, je vais passer devant toi avec toute ma splendeur. C'est un des moments où il dit... Voilà, où il se révèle un peu dans sa gloire. Mais du coup, Moïse, d'ailleurs, se voile pour ne pas être écrasé par cette splendeur. « Et je proclamerai devant toi mon nom, qui est le Seigneur. Je fais grâce à qui je veux, je montre ma tendresse à qui je veux. » Voilà, il se présente vraiment comme le Dieu de tendresse et d'amour. Et comme nous dit le Père Le Verrier, cette figure d'Abraham qui est unique, enfin qui est le père du peuple d'Israël et qui est un peu une figure unique, avec d'ailleurs un enfant unique aussi, nous montre l'unicité de Dieu. Voilà, comme s'il y avait un vis-à-vis entre Dieu unique et puis ce peuple qui est unique et qui est présenté comme le peuple à la suite d'Abraham. D'ailleurs, le Dieu est appelé par Jésus même. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alors Dieu est parole, donc le texte le plus parlant, c'est Jean, le prologue de Jean. Là, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc là on a vraiment dans toutes ces dimensions, c'est la parole qui est avec Dieu et qui est Dieu. Donc non seulement Dieu possède des qualités telles que l'éternité, la sainteté, la toute-puissance, mais il est également capable de les exprimer, les transmettre dans un langage qui correspond à l'expression humaine, comme s'il se mettait à notre niveau pour pouvoir s'expliquer et pour pouvoir nous expliquer et nous dire « écoute ». C'est le début de schéma Israël, « écoute » et nous de pouvoir entendre et de pouvoir comprendre. Donc il a le pouvoir de parler. Et au-delà de cette faculté, qui serait juste un outil, en fait, ça va plus loin puisque ça fait partie de ses attributs. Sa parole est avec lui toute éternité, elle est une composante de sa personne. C'est intéressant de se dire que Dieu est parole, et donc, quelque part, quand on fait marcher un peu notre intelligence ou notre raisonnement, on est quelque chose de... On est vraiment à l'image de Dieu, et cette faculté de réfléchir et de mettre avec des mots et des concepts, ça dit quelque chose de Dieu, en fait. Donc la parole de Dieu, sa révélation, est également sa présence, puisqu'en elle, il rencontre son peuple. Lorsque ce dernier est proche de la parole de Dieu, il est également proche de Dieu lui-même. Quelle est en effet la grande nation dont les dieux sont aussi proches que le Seigneur notre Dieu est proche de nous, chaque fois que nous l'invoquons, il faut lui parler, se rapprocher de lui. Le Seigneur a voulu être avec nous, Emmanuel, en la personne de son Fils Jésus-Christ, sa parole vivante. Donc on a vraiment cette notion de parole qui fait reculer le sacré de la nature. Et donc on a à la fois une part de sacré dans l'Ancien Testament, mais de plus en plus, l'écoute de la parole l'emporte sur la vision des signes. Et donc on a toute cette immense part dans l'Ancien Testament aussi de toutes ces phrases que nous disent les prophètes, les phrases qui nous répètent de Dieu, ou beaucoup de psaumes aussi qui se mettent à la place de Dieu. Alors, parole de Dieu peut avoir deux sens, l'acte de Dieu parlant qui est Dieu lui-même, ou bien un effet de cet acte de Dieu parlant, c'est-à-dire la parole elle-même d'un prophète ou un événement de l'histoire qui est parole de Dieu. Mais si on ne veut pas trahir la richesse du mystère, c'est un texte de Orson Balthazar, si on ne veut pas trahir la richesse du mystère de la révélation, il ne faut pas faire une distinction entre l'acte de révélation de Dieu et le contenu de cette révélation, car au terme de la révélation, la vie intradivine et la figure de Jésus-Christ sont inséparables. Donc on a, mais comme en Dieu toujours, ça nous dit quelque chose de l'unicité entre l'être et l'agir ou le dire. Voilà, en Dieu, c'est tout un. Quand on parle de simplicité de Dieu, ça qu'on veut dire, c'est qu'il y a une forme de... Voilà, c'est deux versants. Il n'y a pas de séparation. Comme nous, on peut penser quelque chose, dire autre chose et faire encore une troisième chose. Donc la parole de Dieu, c'est aussi bien Dieu se révélant d'une manière trinitaire dans l'économie temporelle du salut que l'homme Jésus-Christ qui est l'incarnation de cette parole. Donc il y a une unicité entre l'être de Jésus et puis le verbe de Dieu et puis tout le salut en fait et toute la façon dont l'histoire nous communique ce salut. Alors, ce que je voulais mentionner en dernier, c'était le fait qu'il y a un dialogue, et que c'est important que ce soit un dialogue. On l'a vu avec Abraham, on l'a vu avec Moïse, mais on le voit aussi dans nous, dans notre rapport avec Jésus-Christ. Voilà, c'est pas juste un message transmis, c'est un dévoilement, révélation, ça veut dire dévoilement aussi, du mystère caché en Dieu de toute éternité. Et donc, c'est communier à Dieu lui-même qui se communique. Donc une unique révélation, la révélation historique, la révélation en Jésus-Christ, qui nous révèle, qui est la révélation au sens transcendantal, c'est-à-dire qu'il communique Dieu lui-même, que Dieu se communique lui-même à nous. Voilà. Ça, j'ai déjà dit. Et du coup, la révélation, et c'est en ça que c'est un dialogue, c'est que c'est pas sens unique, et donc elle va être aussi interprétée, et ça, on le verra beaucoup quand on travaillera sur la partie l'écriture sainte, ou même les révélations privées, des choses comme ça. Le receveur a quelque chose à jouer dans cette histoire. Et donc, elle prend son sens, elle trouve son accomplissement, puisque Dieu, dans sa parole et dans sa révélation, veut se communiquer à nous. Mais en fait, c'est dans la façon dont on l'accueille qu'il y a le sens et l'accomplissement. Et donc, il y a toujours la révélation, c'est toujours un événement unique entre Dieu et l'homme, et entre Dieu et l'homme aujourd'hui, donc vous, chacun d'entre vous. Voilà, parce qu'il y a la partie réception qui est importante. C'est un peu la même chose que dans l'Eucharistie ou quand on communie. En fait, il y a une forme d'actualisation parce qu'il y a cette réception qui se fait aujourd'hui. En moi et qui du coup actualise quelque chose qui s'est passé il y a 2000 ans et qui se fait contemporain maintenant. Dans la révélation, il y a toujours cet aspect-là, c'est-à-dire que Dieu, il se révèle dans des événements, il se révèle dans un temps, il se révèle dans une personne, et en même temps, c'est parce que c'est au moment où on le reçoit que ça s'actualise, que du coup toute la révélation est là quand on la reçoit, même si on en perçoit peut-être 10% ou 20%. Et donc il y a cette idée de concentration dans la façon dont on le reçoit. Alors, une phrase d'Amos où il révèle aux hommes sa pensée. Donc, ça, c'est de la vraie communication, ça, et vraiment pour aller plus loin. Et puis, Dieu se révélant à l'homme comme le Très-Haut, comme le Souverain au sens le plus absolu, révélera pourtant l'homme à lui-même mieux que nulle exploration de sa propre conscience. car il se révélera comme le créateur de l'homme et finalement son père, comme celui dont la parole, cette parole même qui éveille en l'homme une surconscience, l'avait créée selon la divine image. Et cette forme de réception un peu unique, de concentration, de révélation en moi quand j'essaye de recevoir cette communication, ben en fait, ça m'éveille à moi-même, en fait, quelque part. Et ça, donc, oui, Bouillet parle de la surconscience, mais qui réveille, en fait, le moi au sens où je suis image, dans la façon dont je suis image de Dieu. Et donc, dans cette dimension de la parole, en fait, ce qu'on voit, c'est que Dieu unique, parole, donc, qui donne la parole, Dieu se fait tout proche pour que nous puissions l'approcher. Et donc, c'est vraiment cette communication de la vie divine. Et donc, non seulement Dieu veut se révéler à nous au sens se faire connaître, comme on connaît quelque chose d'extérieur, mais en fait, il veut se révéler à nous et se faire connaître au sens intime pour qu'on puisse pénétrer dans la vie divine, en fait. Alors, en conclusion, ce que je voulais dire, si Dieu est Dieu et si je suis sa créature, je ne peux le connaître par moi-même ni l'expliquer, même s'il y a des choses que je peux essayer de comprendre. On l'a vu avec la création, où je peux commencer à la deviner. Mais pour être connu, Dieu doit se révéler. Dieu étant Dieu, il peut se révéler. C'est-à-dire qu'il utilise il va utiliser le bon média pour le faire. Et si Dieu veut se révéler, il le fera d'une manière compréhensible pour sa créature. Étant le concepteur de l'homme, la créature peut s'attendre à ce que Dieu communique son plan, son projet, qui il est, et répondre à son besoin de le connaître, de parvenir au bonheur. Donc en fait, c'est tout ça la révélation. C'est Dieu qui non seulement doit se révéler, parce que sinon il y a peu de chances qu'on le découvre vraiment tel qu'il est, mais il peut se révéler, il veut se révéler, et il s'en donne les moyens en se mettant de telle sorte que nous, on puisse comprendre quelque chose. C'est pour ça aussi qu'on peut faire de la théologie un peu. Voilà. Et la révélation présente l'action créatrice de Dieu comme le fruit de sa toute-puissance, de sa sagesse et de son amour. Vraiment cette thématique de l'action créatrice qui n'est pas juste la création initiale, mais vraiment cette créatrice qui est dynamique de vie et qui nous entraîne vers sa vie à lui. Si on va jusqu'au bout de la théologie de la révélation contenue dans le prologue de Saint Jean, on comprend que Dieu ne se rend pas présent parmi les hommes seulement par la proclamation d'une parole, mais aussi par une manifestation du sacré, une éruption de l'invisible dans le visible, par l'incarnation de Jésus-Christ. En se révélant, Dieu se communique lui-même de façon à nous faire participer à sa vie divine.